Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez, en principe, la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite prêché avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour toute personne qui l'écoute.
Et je vous invite à prendre vos Bibles, toujours dans le... Alors, moi j'étais dans le livre des psaumes, donc toujours dans le livre des psaumes pour moi, au psaume numéro 39. Psaume numéro 39. Au chef de cœur, à Yedutun, psaume de David. Je disais, je garderai mes voies, de peur de pécher par ma langue. Je garderai un frein à ma bouche, tant que le méchant sera devant moi. Je suis resté muet dans le silence. Je me suis tu, éloigné du bonheur. Et ma douleur était extrême. Mon cœur brûlait au-dedans de moi, dans mon gémissement, un feu s'allumait. Et la parole est venue sur ma langue. Éternel, fais-moi connaître ma fin. Quelle est la mesure de mes jours ? Je reconnaîtrai combien je suis fragile. Voici que tu as donné à mes jours la largeur de la main, et la durée de ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre. Il s'agite, mais c'est un souffle. Il amasse et ne sait qui recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer en toi et mon attente? Délivre-moi de tous mes crimes. Ne m'expose pas au déshonneur de la part de l'insensé. Je reste muet. Je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis. Écarte de moi tes coups. Je succombe sous les attaques de ta main. Tu châties l'homme en le punissant de sa faute. Tu ronges comme la teigne ce qu'il a de plus désirable. Oui, tout homme est un souffle. Écoute ma prière, Éternel, et prête l'oreille à mes cris. Ne sois pas sourd à mes pleurs, car je suis un étranger chez toi, un résident temporaire comme tous mes pères. Détourne de moi le regard, et mon visage s'éclairera avant que je m'en aille et que je ne sois plus.
Avez-vous déjà vu des roues dentées, des roues avec des dents? Si vous les mettez l'une contre l'autre, vous pouvez tourner une roue qui fait tourner l'autre. On est d'accord? Eh bien, pour cela, elles doivent être synchronisées, ayant les dents dans le creux de l'autre et être une distance qui s'emboîte. Eh bien, si nous voulons que la roue de notre cœur nous permette de comprendre la parole de Dieu, nous avons besoin qu'elle soit synchronisée avec la roue du Saint-Esprit, qui est l'auteur ultime de la parole de Dieu. C'est donc avec ma prière habituelle et consciente de l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu soit synchronisé et fasse tourner la roue de notre cœur en étudiant sa parole ce matin. C'est ma prière. Et nous continuons d'étudier le livre biblique inspiré par l'Esprit Saint du Cantique des Cantiques. Un livre qui peut parfois sembler difficile d'accès ou énigmatique quant à sa place dans le canon biblique. Et comme à chaque prédication de cette série, j'aimerais juste rappeler quelques éléments que nous avons déjà pu comprendre dans la direction du cheminement, ainsi ceux qui entrent maintenant ici dans cette série, eh bien auront aussi ces quelques points de repère. Et pour les autres, ça nous fait un bon rappel. Premièrement, ce texte est un chant d'amour oriental. Ce n'est pas un récit ou une prophétie. C'est un type de poésie de sagesse écrite sous la forme d'un chant. Et donc, il y a des gens qui chantent et qui se répondent. Deuxièmement, dans ce chant d'amour, nous entendons deux personnes qui s'aiment nous raconter et nous faire vivre leur amour avec parfois un cœur ou une voix qui se fait entendre. Et aujourd'hui, on aura un cœur qui se fera entendre. Troisièmement, nous voyons un texte qui parle de deux personnes réelles qui ont vécu ce qu'ils chantent. Il s'agit de Salomon dans ce premier mariage avec la Sulamite. Et c'est avec la Sulamite. Et nous y voyons des éléments utiles pour réfléchir à notre vie de couple, s'y préparer, la vivre et l'encourager, même pour les célibataires qui sont autour de ceux qui sont mariés, qui peut-être un jour seront aussi mariés. Quatrièmement, ce texte est aussi un type, une figure, une image qui pointe vers la relation spirituelle entre Christ et l'Église, entre Dieu et nous. Et dernièrement, nous avons distingué trois parties principales dans ce livre. Première partie, l'amour pendant les fiançailles, qui allait jusqu'au chapitre 3, verset 5. Ensuite, deuxième partie, l'union, le mariage, jusqu'au chapitre 5, verset 1, que nous avons vu la dernière fois. Et la troisième partie est la vie commune des bien-aimés, que nous commençons aujourd'hui avec ce que j'appelle la synchronisation de l'amour. Et nous continuerons la prochaine fois avec la délectation de l'amour et nous terminerons avec le fondement de l'amour. Le mariage est passé, l'euphorie du début s'est estompée, les mariés s'aiment toujours. Mais la synchronisation n'est pas toujours au rendez-vous. Ça vous dit quelque chose ? Le mariage est passé, le fruit des débuts s'est estompé, les mariés s'aiment toujours, mais la synchronisation n'est plus toujours au rendez-vous. C'est vrai que le cantique des cantiques, c'est le superlatif de l'amour, vous êtes d'accord ? Et pourtant, il n'est pas aveugle, il est réaliste dans un monde déchu où le confort ou l'impatience, par exemple, peuvent malheureusement être plus importants que le bien-aimé. Dans cette prédication, intitulée donc « La synchronisation de l'amour » et qui concerne les versets 2 du chapitre 5 au verset 3 du chapitre 6, que nous reprendrons d'ailleurs aussi la prochaine fois, nous aurons ce matin deux grandes parties. La première sera les versets 2 à 8 et que j'ai intitulée quand l'un ne trouve pas l'autre. Ça, c'est la première partie. Nous aurons plusieurs éléments. Et ensuite, nous réfléchirons à deux questions qui nous sont proposées dans les versets 9 à 6, verset 3. Deux questions qui vont en fait aider à la synchronisation. On va voir ça tout à l'heure. Mais quand on regarde le texte, peut-être que vous vous êtes rendu compte, quand Loïc a commencé à lire tout à l'heure, ça commence « J'étais endormi ». Mais mon cœur veillait. Ça commence bien. Qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que c'est un rêve ? Est-ce que c'est de l'imagination qui interprète des faits dans un mi-sommeil ? Est-ce que c'est un réveil difficile ? Ne me demandez pas de trancher. Mais c'est en tout cas une scène surréaliste. Une femme qui est confortablement installée, un homme qui demande à entrer, la femme qui prend du temps pour aller ouvrir, l'homme qui part, la femme qui se trouve dans la ville où elle est agressée, elle parle avec des filles suppliant de trouver celui qu'elle aime, elle décrit son mari avec passion et dit qu'elle ne sait pas où il est parce qu'elle le cherche et puis ensuite elle dit qu'elle sait où il est. Waouh, c'est un peu déroutant quand même. C'est d'accord, c'est un peu déroutant. C'est vrai que je ne sais pas comment vous vivez vos rêves, mais moi, quand je rêve, je suis certain, ceux que je me rappelle, évidemment, je suis certain d'être dans la réalité. Certain. Pourtant, des choses étonnantes s'y passent. Je rencontre des personnes qui n'ont jamais été ensemble. La chronologie n'est pas toujours respectée. Et je peux être dans un endroit, puis dans un autre, sans transition, parfois. Et parfois, je suis très reconnaissant de me réveiller, évidemment. Parce que je suis dans une situation de grand danger où je subis de mauvais traitements ou je suis dans une situation difficile dans laquelle je n'aimerais pas être. D'ailleurs, pas plus tard que vendredi, ça m'est arrivé. Je rêvais après plusieurs étapes, je vous fais la grâce de tout le rêve. Je ne me rappelle plus de tout, c'était assez incohérent. Mais à la fin, un renard attaquait un enfant, je me suis jeté sur l'animal pour le maîtriser et je me suis réveillé. Ah, mon cœur battait, je peux vous assurer. Donc pour ma part, J'ai pas de mal à croire que ici, il y a une part de rêve dans ce texte. Mais c'est pas ça le plus important, en fait. C'est l'impression, la signification de ce qui est vécu qui nous intéresse ce matin dans ce chant. C'est un chant d'amour. Comme je l'ai dit, c'est pas juste un récit de ce qui se passe. Jusqu'ici, dans le Cantique des Cantiques, chaque fois que l'un désirait vivre avec l'autre, il y avait soit l'espérance du moment où ils seraient ensemble, ou l'union passionnée et bienveillante. Mais aujourd'hui, les deux amoureux semblent ne pas se trouver. C'est notre premier point. Quand l'un ne trouve pas l'autre. Alors, vous avez pris l'habitude maintenant de comment je prêche sur le Cantique des Cantiques. Je paraphrase ce qui est écrit pour chercher à comprendre ce qu'il a. Je ne vais pas chaque fois relire tout le texte, on l'a entendu tout à l'heure, mais je vais paraphraser ici les versets 2 à 8. Et voici ce que l'on pourrait comprendre. Donc c'est elle qui chante ça. « J'ai fait un rêve qui montre ce que nous vivons parfois dans notre couple. Mon bien-aimé s'approche de moi avec des mots d'amour et une invitation à m'ouvrir à lui comme une porte derrière laquelle il se tient. » Mais je n'ai pas ou plus envie, le temps a passé. Je me suis préparé à dormir. Il insiste avec respect et je vois concrètement sa main bienveillante. Après réflexion et l'œuvre réchauffante de son amour dans mon cœur, je vais lui ouvrir. Mais le temps a passé, il n'est plus là. Quelle tristesse! Je le cherche, j'ai la conscience reprise et malmenée comme par des gardes qui s'en prendraient à moi. Et je n'arrive pas à le trouver. Si seulement quelqu'un pouvait lui dire combien je l'aime, que je l'aime tant. Voilà un peu ce qu'on peut paraphraser dans ces versets qu'on a entendus tout à l'heure. C'est intéressant parce qu'on voit que le temps passe à deux reprises. Le temps passe avant que le bien-aimé ne vienne vers sa compagne, qui a le temps d'ôter sa tunique, de laver ses pieds, le temps passe. Puis le temps passe avant que la compagne ne vienne ouvrir pour sa bien-aimée. Il y a vraiment un problème de synchronisation. Alors j'ai tenté de partager cette partie en plusieurs aspects pour mieux comprendre ce qui s'y passe. J'y vois l'aspect de la demande. Il y a une demande qui est faite, même deux. Deuxièmement, l'aspect de la réponse, par l'indifférence ou le départ, et l'aspect du résultat par la recherche et la souffrance. C'est trois éléments, trois aspects que j'aimerais voir ici avec vous. Nous voyons le bien-aimé qui vient avec une attitude bienveillante. Il a une attitude bienveillante, vous pouvez regarder dans le texte. Il est rempli de tendresse, les termes utilisés pour parler à celle qu'il aime sont évocateurs. Donc le bien-aimé vient avec une attitude bienveillante, remplie de tendresse, et les termes utilisés pour parler à celle qu'il aime sont évocateurs. Alors, désolé les enfants, vous devez écrire évocateur, ce n'est pas un mot facile. Ça veut dire que ces mots, ils expriment quelque chose que l'on peut comprendre, qui nous aide à comprendre ce qui se passe. Il dit « ma sœur », par exemple. On avait vu qu'elle est sœur car elle fait partie de la même famille humaine, le même peuple, elle a les mêmes valeurs, les mêmes références. Ce n'est pas une étrangère. Voilà pourquoi il l'appelle « sœur », on avait déjà vu ça ensemble. Il utilise également le terme « ma compagne »,« ma colombe »,« ma parfaite ». Tout indique en fait qu'il est plein de sollicitude pour elle. Mais il revient tard en fait, et nous n'avons pas d'indication pourquoi. Revient-il du travail? A-t-il été aider quelqu'un? Revient-il d'une soirée avec ses amis? Ou était-il allé au temple? Nous ne le savons pas. Ce que nous savons, c'est que le temps a passé et qu'elle semble s'être préparée à dormir. Si nous voyons qu'il insiste un peu, il n'y a aucun indicateur qu'il le fait d'une mauvaise manière. Il dit qu'il passe la main par la porte. Je peux vous expliquer, il y a toutes sortes d'explications de comment il peut faire ça. Il exprime que voilà, il désire vraiment être avec elle, mais pas de mauvaise manière. Pourquoi? Parce que nous voyons que la réponse de la compagne se réveille. Si c'était mauvais, ça n'aurait pas pu se réveiller. Elle se réveille et met du côté de son bien-aimé, son désir s'endort. Elle, ça se réveille, lui, ça s'endort. La demande à la compagne arrive plus tard. Elle le cherche, l'appelle. Elle demande même aux filles de Jérusalem de dire à son bien-aimé qu'elle est malade d'amour. Quelque part, elle lui demande aussi. Donc quand on réfléchit, on fera à chaque fois la réflexion par rapport au couple, puis en plus la réflexion face à notre relation avec Dieu, hein, comme on en a aussi l'habitude maintenant. Nous voyons ici un exemple typique d'une différence assez générale entre les hommes et les femmes, particulièrement aussi dans le domaine de la sexualité. De manière schématique, les hommes sont des plaques à gaz, vite allumées et chaudes, vite éteintes et froides. Alors que les femmes sont comme des fourneaux à bois, lents à allumer et à chauffer, mais aussi lents à éteindre et refroidir. Ce qui signifie que chacun dans le couple cherchera à rejoindre et comprendre l'autre. C'est ça notre devoir à chacun, de chercher à rejoindre et comprendre l'autre. L'homme est appelé à la patience, rassurant qu'il l'attend avec et respect. Qu'il a de la patience et qu'il l'attend avec respect. Et la femme a de la bienveillance, rassurant qu'elle arrive, et a de la compréhension. Donc on a cette notion de patience et de respect particulièrement pour l'homme. C'est dans les deux sens, pour tous les aspects évidemment, mais c'est quand même particulièrement pour l'homme ici. Et la femme, la bienveillance qui rassure qu'elle vient, et la compréhension. Dans tous les cas, la demande devrait être bienveillante, encourageante, respectueuse, sans forcer, quelles que soient les circonstances. Ici, je mettrai une réflexion, on en aura plus par la suite, pour notre relation spirituelle. Dans notre relation avec notre Seigneur, rappelez-vous, Jésus est toujours bienveillant, encourageant, respectueux, se réjouissant de passer des moments de qualité, de profondeur d'âme avec nous. Rappelons-nous cela, c'est important. Passons à ce deuxième aspect, l'aspect de la réponse par l'indifférence ou le départ. Le bien-aimé fait sa demande. La bien-aimée répond avec une excuse qui ne manifeste plus un amour intense pour son bien-aimé, qu'elle était prête à chercher, à ne plus lâcher lorsqu'il fréquentait. On avait vu ça ensemble, c'était très fort au début. Donc le bien-aimé fait sa demande, la bien-aimée ou la compagne répond avec une excuse qui ne manifeste plus un amour intense pour son bien-aimé. Et par la suite, la compagne ne peut même plus faire sa demande parce que le bien-aimé est parti. Alors il semble clair qu'il n'est pas parti fâché, hein, parce que l'effet de sa demande était positif et lorsque la compagne revient à elle en 6, 2 et 3, elle sait où il est et elle peut assurer leur amour réciproque. A-t-il été impatient? C'est possible. Simplement, avant qu'il ne parte, elle ne lui a donné aucun indice qu'elle lui ouvrirait. Avait-il quelque chose à faire? Une personne à aider? Un enfant à consoler? Rien n'est dit. Donc nous ne nous concentrerons pas sur la réaction du bien-aimé, mais plutôt de la compagne qui nous est dit ici. Sa réponse révèle en fait de la paresse, le désir de ne pas être dérangé, mettant plus d'importance sur son confort qu'à son bien-aimé. Alors, quelques réflexions en lien avec le couple. Ça soulève que dans un couple, il peut y avoir des problèmes conjugaux. Lesquels sont possibles? Le manque de communication. On ne dit pas, là, elle dit rien. Après, même quelque chose arrive, évidemment. Le repli sur soi, le manque de confiance, le non-pardon, l'irrespect. En fait, ces éléments-là, j'ai exprès pris des éléments qui sont des bases, en fait, qui vont toucher les autres domaines, comme la gestion du temps, la gestion des finances, la gestion des relations hors du foyer. Et très souvent, le premier domaine touché est celui de la sexualité. L'intimité du couple est un indicateur de la santé de la relation du couple. Dès que l'un se refuse à l'autre pour des raisons telles que présentées dans Cantique 5, verset 3, la chaleur de l'amour qui se donne n'est plus autant présente. C'est un moment important de remettre du carburant. Et on va voir comment faire ça tout à l'heure, puisque le texte en parle. Quelques réflexions dans notre relation spirituelle ici. Dans notre relation avec Christ, lorsque nous commençons à plus aimer notre confort que notre bien-aimé, l'intimité avec lui va diminuer. Lorsque nous commençons à aimer notre confort plus que notre bien-aimé, l'intimité avec lui va diminuer. Par exemple, si j'ai l'habitude de vivre mon culte personnel le matin, mais je commence à préférer dormir 30 minutes de plus et ne pas prendre de temps avec la personne avec laquelle je tiens le plus au monde, sans trouver un autre moment dans la journée, alors qu'en un sens, il frappe à ma porte en parlant et insiste en nous le rappelant par la conscience. Il ne faut pas s'étonner que l'on ne se sente plus si proche de lui. Et cela ne signifie pas que lui n'est pas proche. On le voit d'ailleurs ici. C'est très intéressant. À la fin du texte, on verra qu'elle, elle sait qu'il est là. Il est, en fait, il n'est pas loin. Ça ne signifie pas que notre Seigneur n'est pas proche de nous, mais que nous ne le voyons plus et que nous ne l'entendons plus. Ça nous amène au troisième aspect, l'aspect du résultat, de la recherche désespérée, de la souffrance. La compagne, quand elle ne voit plus son bien-aimé, est désespérée. Hein, si on regarde un petit peu le texte, on voit qu'elle est désespérée. Elle le cherche, elle l'appelle dans tous les sens. Elle se retrouve même dans une situation difficile avec les gardes. On peut dire que c'est simplement du rêve. On peut aussi l'expliquer par rapport à l'époque. Il semble que les gardes, lorsqu'ils voyaient quelqu'un dans la nuit, parce que c'est la nuit, ils interpellaient, demandaient qui allait là. Et après une sommation, ils attrapaient la personne pour voir qui c'était, quitte à enlever le voile s'il le fallait. Elle est en tête tellement déboussolée, désorientée, perdue dans sa recherche, a pu complètement passer à côté de toutes ces sommations, etc. Qui a fait en fait qu'elle se soit trouvée dans cette situation difficile, où elle s'est vue même frappée, dévisagée, pour ensuite expliquer aux filles de Jérusalem qu'elle est malade d'amour. Alors, c'est vrai que le fait que les déplacements, les rencontres ne sont pas vraiment cohérentes, je penche un peu quand même pour le rêve, où cela est possible, ou bien dans une réalité imaginée. Le résultat de ne pas avoir vécu la recherche du bien de l'autre en lui ouvrant la porte et en dialoguant avec lui, parce qu'on peut ouvrir la porte et dialoguer, pas besoin de faire exactement ce que l'autre veut, on peut dialoguer ensemble, mais en n'ouvrant pas la porte et en ne dialoguant pas, c'est la désorientation dans laquelle elle s'est trouvée. La désorientation. Et là, je ne vais faire qu'une réflexion par rapport à notre relation spirituelle. Ne plus entendre ou ne plus voir notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ est déstabilisant et désorientant. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça dans votre vie, vous avez l'impression que vous ne le voyez plus et vous ne l'entendez plus. C'est désorientant. Eh bien, lorsque nous sommes désorientés dans la vie, demandons-nous si nous sommes en relation avec notre Seigneur Jésus-Christ, celui que tout le monde aime de tout son cœur, ou bien si nous avons commencé à laisser prendre quelque chose d'autre la place de notre bien-aimé. C'est dans cette situation désespérée que le cœur, c'est H-O-U-R-S, parce que cœur, ça peut vouloir dire le cœur, hein, mais là, le cœur, c'est celui qui chante, que le cœur ici répond, qu'il parle à la compagne en lui posant deux questions intéressantes et utiles pour son retour. Et c'est la deuxième partie de ce qu'on va voir ce matin, des questions pour se retrouver. S'il est vrai que les conjoints du Cantique des Cantiques ne sont pas synchronisés dans ce rêve, ils restent néanmoins les bien-aimés l'un de l'autre. Nulle part on est dit tout à coup qu'ils ne sont plus les bien-aimés l'un de l'autre. Ils restent les bien-aimés l'un de l'autre, même s'ils ne sont pas synchronisés. Il n'y a aucune trace de séparation possible, pas de porte de sortie de cette relation qui est solide malgré le désaccord. Et si le bien-aimé est parti, ce n'est pas pour se séparer. Et nous voyons d'ailleurs dans les versets 2 et 3 du chapitre 6 qu'il n'a pas quitté le jardin d'amour. Mais pour se retrouver, pour à nouveau se synchroniser, l'intervention du cœur est salutaire avec les deux questions qui leur sont posées. Et la première question concerne l'attachement, et la deuxième question concerne la connaissance et la confiance en l'autre. Donc commençons par la première question. Et là, je vais paraphraser les versets 9 à 14, et là, j'intitulerai cette partie-là, cette première partie du deuxième point de la prédication. Qu'a ton bien-aimé de plus ? Qu'a-t-il de plus ? Donc si je paraphrase ici, le cœur chante, hein, tu cherches ton bien-aimé, mais qu'a-t-il de plus que les autres pour que tu veuilles qu'il connaisse ton amour pour lui ? Qu'est-ce qu'il a plus ? Et il répond, mais pour moi, mon bien-aimé est merveilleux. Sa réflexion, sa direction sont de l'or et il a fière allure. Il est doux et patient, vivant le contentement. J'aime lui manifester mon amour, lui dont les paroles sont comme un parfum pour moi, lui dont la force est une protection et un refuge pour moi. Il est bien soigné, je le reconnais entre tous. Quand je pense à son amour, je désire être avec lui. Après l'indifférence que l'on a vue au début du texte, lorsque le bien-aimé demandait d'ouvrir, ici c'est l'émerveillement en le décrivant auprès de celle qui aide à la restauration. Après l'indifférence, on a ici l'émerveillement. Avant de revoir son bien-aimé et pour qui les désirs sont à nouveau totalement réveillés, elle a besoin de se souvenir qui il est pour elle. Qui il est pour elle. C'est intéressant, c'est la seule description du bien-aimé que fait la compagne ici, dans le Cantique des Cantiques. Habituellement, c'est lui en fait qui la décrit. Et habituellement, elle raconte ce qui se passe et l'invite à venir. Mais ici, elle le décrit. D'ailleurs, par rapport au texte ancien, etc., c'est une, entre guillemets, anomalie. Puisqu'en fait, dans les textes anciens qu'on retrouve, c'est toujours l'homme qui décrit la femme. Alors qu'ici, on a aussi ce côté où la femme décrit son bien-aimé. Et décrire son bien-aimé va l'aider à retrouver la relation avec lui, une relation qui lui est chère et dont elle a besoin. Donc si on réfléchit un petit peu dans ces relations de couple, nous voyons ici l'importance de cultiver l'émerveillement dans le couple. Cultiver l'émerveillement dans le couple. Selon la compréhension biblique du mariage, une fois unis, il n'y a pas à réfléchir s'il faut regarder pour quelqu'un d'autre. Non, il faut réfléchir à comment faire grandir l'amour l'un pour l'autre. Comment cultiver l'émerveillement l'un avec l'autre ou l'un pour l'autre. Alors vous allez peut-être me dire, mais tu ne te rends vraiment pas compte comme je ne suis plus attiré par mon mari ou plus attiré par mon épouse. Et là je vous réponds, quelle tristesse. Mais c'est le moment d'enlever toutes les mauvaises herbes du jardin et de semer de bonnes graines. Ce n'est pas facile si les mauvaises herbes sont grandes, c'est vrai, et même s'ils ont des racines profondes. Mais c'est aujourd'hui le moment de commencer. Il ne faut pas attendre que les racines aillent encore plus profondément. Et la première chose à faire est de se repentir. De se repentir d'avoir comparé à d'autres. Très souvent, l'émerveillement diminue parce qu'on compare à d'autres. Se repentir d'avoir comparé à d'autres. Se repentir d'avoir voulu changer l'autre selon sa vision. Et revenir à ce que Dieu a donné à l'autre comme qualité, comme don et comme capacité. Donc la première chose à faire est de se repentir d'avoir comparé à d'autres, d'avoir voulu changer l'autre selon sa vision et revenir à ce que Dieu a donné à l'autre comme qualité, comme don et comme capacité. Et bien entendu, le conjoint peut aider en utilisant les capacités et les qualités reçues en cherchant à les vivre selon le fruit de l'esprit et en se repentant des œuvres de la chair. Relisez Galates 5, 19 à 20. Évidemment, quand quelqu'un vit ses capacités de façon égoïste, orgueilleuse, remplie de toutes ces œuvres de la chair, c'est pas facile de s'émerveiller en face. C'est vrai. Donc chacun a un travail à faire. C'est vrai, c'est important. Mais n'hésitez pas à faire la liste des dons que Dieu a donnés à votre conjoint. N'hésitez pas à faire ça. Ça vaut la peine. Elle le fait ici. N'hésitez pas à faire la liste des dons que Dieu a donnés à votre conjoint et priez que vos yeux soient ouverts afin que cette liste grandisse. Et si vous n'êtes pas marié, ne dites pas qu'il n'y a rien à faire. Vous pouvez faire une liste pour vos parents, pour vos frères et sœurs physiques, vos frères et sœurs dans la foi. Particulièrement peut-être avec des personnes où c'est moins facile. Et vous commencez par un élément que Dieu a donné à cette personne. Vous ne voyez peut-être que ça. Que faut-il faire ? Priez. Continuez. Qu'a ton bien-aimé de plus ici ? Hein, c'est ce qu'il demande. Ça ne signifie pas « est-il meilleur que les autres de façon générale ?» Non, c'est « qu'a-t-il de plus pour toi ?» Car pour toutes les épouses, leur mari est le meilleur. Et ce n'est pas une question, c'est un fait, car Dieu l'a donné. Et la question est de voir les grâces faites par Dieu. Et pour tous les maris, leur épouse est la meilleure et la plus belle. Et ce n'est pas une question, car c'est un fait, Dieu l'a donné. La question est de voir comment le voir, le nourrir et l'entretenir. Vraiment, dans les couples, je vous encourage à faire cette liste de qualités de votre conjoint. Et si vous êtes au début de votre mariage, peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui sont là, ben notez-les, ça vous sera utile, je vous assure. Hein ? Et si peut-être vous ne voyez plus qu'un, notez-le. Et priez, priez, priez encore. Et afin que Dieu vous ouvre les yeux. Et dès que vous en voyez un deuxième, notez-le. Et remercier, remercier et continuer à prier, afin de maintenir cet émerveillement pour celui ou celle qu'il a mis à vos côtés. Un émerveillement qui passe par Dieu, parce que tout vient de lui. Ce n'est pas mettre quelqu'un sur un piédestal, c'est reconnaître l'œuvre de Dieu dans la personne mise à nos côtés. Quelques réflexions pour notre relation spirituelle. Lorsque nous avons un peu perdu le contact avec notre Seigneur Jésus-Christ, un des meilleurs moyens pour revenir proche de Jésus-Christ est de nous rappeler qui il est pour nous. Nous rappeler qui il est pour nous et les merveilleuses caractéristiques de notre Roi Sauveur. Je vous encourage à le faire. On va le faire un petit peu maintenant. Donc un des meilleurs moyens de revenir proche de Jésus est de nous rappeler qui il est pour nous et les merveilleuses caractéristiques de notre Roi Sauveur. Jésus, c'est le plus intelligent. Je ne prends aucun risque en disant ça. C'est le plus intelligent. Il connaît toutes choses. Ses réflexions sont toujours bien dirigées. Il pense toujours au bien. En fait, sa tête, c'est de l'or pur. Jésus est rempli de bienveillance. Il voit toujours le bon côté. Vous saviez ça ? Il voit toujours le bon côté. De ce que nous faisons de bien. Il a un œil attentif, paisible, calme. Quand on le regarde dans les yeux, ça nous inspire la paix. En fait, ses yeux sont comme des colombes. Jésus a des paroles remplies d'encouragement. Vous connaissez les paroles d'encouragement de Jésus ? On en a. Je vais vous en donner quelques-uns. Continue, il y en a beaucoup plus que ça. Tout pouvoir m'a été donné, je suis avec vous tous les jours. Je ne vous donnerai pas les références ici. Si vous les voulez, je vous les donnerai tout à l'heure. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Si je m'en vais, je vais préparer une place et je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mes brebis entendent ma voix. Moi, je les connais. Elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront pas jamais et personne ne les arrachera de ma main. En fait, ses lèvres sont des lys d'où découle la myrrhe répandue. Et n'hésitons pas à continuer à décrire notre bien-aimé Seigneur. Son palais n'est que douceur et toute sa personne est désirable. Je ne fais que citer le cantique. C'est très bien d'être à nouveau bien disposé, mais encore faut-il le retrouver. Et c'est là que la deuxième question des filles de Jérusalem est pertinente. C'est vraiment intéressant. Vous regardez au chapitre 6, au verset 1. Elle vient de leur dire, hein, donc elle, « Où est-il ? Je le cherche. » Puis maintenant, c'est elle qui lui demande, « Où est-il ? » Si je paraphrase ici, « Connais-tu ses habitudes, ce qu'il aime, où il se réfugie ? Nous voulons t'encourager et t'accompagner pour le rejoindre. » Et puis elle répond, Mais je sais où il est. Il soigne notre relation, il a des pensées bienveillantes et il pense à moi. Je suis à lui et il est à moi. En fait, pour resynchroniser une relation, l'émerveillement permet l'attachement. Voilà pourquoi la première question a été posée. L'émerveillement va, en fait, permettre l'attachement et ensuite la connaissance permet la confiance qui est le terrain de l'union. Et la connaissance permet la confiance qui est le terrain de l'union. Parce que je vous ai déjà dit, c'est vraiment étonnant ce qui se passe ici. Elle implore les filles de Jérusalem de faire passer un message à son bien-aimé si elle le trouve. Et quand les filles lui demandent où il est, elle dit « bah oui, je sais où il est ». C'est qu'entre ces deux questions, les filles de Jérusalem ont fait réfléchir la compagne qui s'est recentrée sur son bien-aimé. Comme elle le connaît et que sa confiance est revenue, en fait, elle sait où il est. Elle sait où il est. En fait, il n'est jamais vraiment parti, mais elle ne le voyait plus. Et lorsqu'elle n'est plus déboussolée, elle se souvient qu'il est fidèle, qu'il veut son bien, qu'il l'aime et qu'elle peut aller auprès de lui avec confiance. Alors il est clair que lorsque nous parlerons dans quelques instants de la relation spirituelle, c'est une évidence parce que le bien-aimé est parfait. Dans nos couples, si on réfléchit au niveau du couple, il est vrai que le péché touche les deux personnes et que parfois, s'il y a une distance, c'est à cause d'un péché qui peut être d'un côté, de l'autre côté ou des deux côtés. Il est donc important de toujours passer à la station d'épuration de la croix par la repentance et la foi qui permet de retrouver la confiance. De pouvoir ainsi revenir sur les fondements sur lesquels le couple a bâti sa maison sur Christ. Un couple qui a bâti sa maison sur Christ peut revenir. Il ne doit pas reposer la fondation. Elle est là. Et si vous saisissez que vous n'avez pas construit votre fondation sur Christ dans le couple, c'est pas trop tard. C'est possible de le faire encore. Mais une fois qu'on l'a fait, on peut y revenir et on ne va pas reposer en fait cette fondation. Et même si nous prenons la situation du cantique des cantiques, ce fondement ici, il est posé. Quand il lui demande après où il est, elle sait où il est. Ça a été posé dès le départ, ce jardin d'amour. Pas besoin de remettre en doute l'amour de l'autre, pas besoin de soupçonner le mal. Si vous passez régulièrement par la station d'épuration et que vous ne vous couchez pas sur votre colère, eh bien, vous pouvez savoir que l'autre est dans votre jardin d'amour et que vous pouvez l'y rejoindre. Évidemment, la réflexion spirituelle nous vient assez facilement ici. Jésus n'a jamais quitté le jardin d'amour, même lorsque nous avions refusé l'ouverture de la porte. C'est là que nous le retrouverons toujours. C'est là que nous pouvons venir dans une attitude de repentance, de confiance qu'il a tout accompli pour nous délivrer de notre péché. Sa grâce est infinie pour ceux qui sont en Christ. Pour ceux qui sont en Christ, il n'y a pas de limite à sa grâce. Mais là, j'aimerais que vous compreniez bien. Il ne nous donne pas un chèque en blanc pour pécher. Il ne veut pas que nous péchions. Il met d'ailleurs en nous le désir de ne pas pécher. C'est une preuve que nous avons une nouvelle nature. Et comprenez-moi bien encore ici, ce n'est pas simplement le désir de ne pas devoir subir les conséquences du péché. Ça, c'est tout le monde, hein, qu'il ait une nouvelle nature ou pas. Tout le monde ne veut pas subir les conséquences du péché. Ce n'est pas ça que je suis en train de vous dire quand notre nature nous dit qu'on ne veut pas pécher. C'est qu'on désire ne pas pécher en tant que tel. On désire en fait vivre une vie sainte. Ce n'est pas juste ne pas avoir les conséquences du péché. Ça, c'est tout le monde. Ça ne veut pas dire que notre vie est transformée. Ce qui veut dire que notre vie est transformée, c'est quand on veut vivre une vie sainte. La grâce, c'est notre encouragement à grandir dans la sainteté. La grâce est là pour qu'on n'ait jamais rien à lui cacher. Il n'y a pas besoin de cacher quoi que ce soit à notre Sauveur Jésus-Christ. La grâce est là pour ceux qui sont en Christ. Nous arrivons à la conclusion. Un amour non synchronisé qui se termine par, si vous regardez les derniers versets, « Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi ». Une synchronisation parfaite. Il est possible de se retrouver. La parole l'enseigne. Un texte qui commence par une voix qui frappe. Ça, c'est aussi intéressant. Une voix qui frappe. Je ne sais pas si vous avez vu ça. En fait, c'est parce qu'il ne frappait pas comme ça. Il avertissait. Le fait de frapper, c'était des paroles qui étaient dites. Il n'y a aucune violence dans toute cette affaire. Et ça nous rappelle évidemment, beaucoup l'ont sûrement pensé, rappelle le texte de Apocalypse 3.20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Un texte qui est dans un contexte, le contexte de l'église de Laodicée. Prenez vos Bibles, on va les regarder ça ensemble. Apocalypse 3, donc là vous avez pu suivre dans le cantique, tous les paraphrases, etc. Maintenant on va dans le dernier livre de la Bible, donc ça devrait pas être trop difficile à trouver, tout à la fin. Apocalypse 3, et puis on va lire les versets 14 à 22. Écrit à l'ange de Laodicée, « Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid, ni bouillant, si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter chez moi de l'eau réprouvée par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu. Et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu voies. Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle, repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père, sur son trône, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Es-tu de l'eau froide qui désaltère celui qui la boit? Ou es-tu de l'eau chaude qui nettoie, qui réchauffe? Ou es-tu tiède dans ton confort, ne voulant pas ouvrir à celui qui frappe et qui appelle à la repentance? Il est même possible que tu viennes à l'église régulièrement, peut-être même que tu dises que tu es chrétien. Vas-tu ouvrir à celui qui frappe? Qui te laisse peut-être ta dernière chance? Nous ne connaissons pas notre fin. Donc j'aimerais nous dire à tous, à moi de même, ouvrons toujours à Jésus. Ouvrons toujours à Jésus à chaque fois qu'il frappe à notre porte cette semaine. À chaque fois qu'il frappe à notre porte cette semaine, cherchons à vivre l'ouverture pour Christ. Et dans nos couples, cherchons à vivre aussi l'ouverture. Selon le texte de 1 Corinthiens 7 que je ne vais pas commenter, privilégiant le dialogue et nourrissant l'émerveillement. Ouvrons toujours la porte à Jésus et privilégions l'ouverture dans nos couples en privilégiant le dialogue et en nourrissant l'émerveillement. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous avons commencé à étudier ce livre du Cantique des Cantiques qui nous montrait une exaltation, un amour passionné, un désir d'être avec l'autre. Ces notions qui étaient tellement fortes que il n'arrivait quasiment pas à se retenir. Et aujourd'hui, nous voyons que lorsque le bien-aimé frappe à la porte, la bien-aimée ne répond pas. Ou non, elle répond en disant qu'elle ne viendra pas. Seigneur, j'aimerais venir vers toi pour implorer ta grâce, parce que combien souvent nous avons été dans cette situation-là, face à toi. Donne-nous la grâce, Seigneur, de nous repentir de tout ce qui nous a retenus, de tous nos pieds propres, de tous nos manteaux enlevés, de tout ce qui est plus important que toi dans nos vies. Donne-nous la grâce, Seigneur, de nous tourner vers toi. Et j'aimerais te prier, Seigneur, aussi que dans le cadre du couple, il puisse y avoir une ouverture avec compréhension, avec respect, avec patience, avec amour, avec bienveillance. J'aimerais te prier, Seigneur, que nous puissions apprendre à nous aimer les uns les autres, que les couples soient les modèles de l'amour l'un pour l'autre, puisque chacun dans le couple peut connaître les qualités, les dons que tu as donnés à l'autre. Nous sommes les mieux placés en étant juste à côté. Et qu'ainsi nous puissions être comme des détonateurs pour que dans l'Église, les uns vis-à-vis des autres, nous reconnaissions les dons, les capacités que tu nous donnes les uns aux autres et que nous nous en réjouissions. Et que cela nous aide à nous émerveiller les uns des autres et surtout de celui qui donne tous ses dons et ses capacités. Toi, notre Seigneur Dieu, Créateur, Souverain du ciel et de la terre, que nous voulons adorer. J'aimerais vraiment, Seigneur, te prier que nous puissions entrer dans cette compréhension pour que nous puissions, Seigneur, lorsqu'il y a des problèmes de synchronisation, revenir à ce que toi tu as donné. Revenir au fondement d'une relation basée sur toi dans un jardin d'amour que toi, tu mets en place. Sois loué et béni dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez entendre d'autres prédications ou profiter de ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.